Bonjour Zoé Bouvier, volontaire en service civique, Paolo Dos, Goon poète et Nathalie Martineau, éducatrice spécialisée, sont les invités du magazine réalisé à l'occasion de la tenue du colloque national intitulé « Du désir d'enfant au devenir parent, quel cheminement quand on a un handicap » organisé par l'association Grandir d'un monde à l'autre. La contribution de Zoé Bouvier.
Je suis en service civique dans l'association Grandir d'un monde à l'autre, qui du coup est à l'origine du colloque. Donc je suis arrivée en octobre dans l'association pour justement organiser ce colloque-là. Donc toute la partie cachée, on va dire, toute l'organisation pratique derrière l'organisation d'un événement de cette taille. Il y a beaucoup de choses à faire, mais c'est chouette.
Vos antécédents ?
Je suis toujours en études, en parallèle du coup du service civique. Je suis en première année d'histoire de l'art. Donc a priori rien à voir, c'est assez, ça peut paraître un peu incongru ou un peu, j'ai pas un parcours très linéaire, on va dire. J'ai fait plusieurs choses avant de trouver vraiment ce que j'avais envie de faire. Et du coup l'histoire de l'art c'est ce vers quoi je veux me tourner et ce vers quoi je veux continuer. Mais c'est vrai que le service civique, je le vois plus comme une expérience un peu à côté, mais qui me permet de vivre des choses que je pourrais pas vivre, que j'ai pas eu l'occasion de vivre dans mon cursus. Et découvrir un univers auquel j'ai rarement été confrontée. Et je trouve c'est important pour se construire et pour faire évoluer son regard aussi sur la société en général.
Pourquoi avoir choisi l'association Grandir d'un monde à l'autre ?
Je cherchais un service civique. Je ne savais pas trop dans quoi, je ne savais pas trop où. J'ai eu du coup vent du fait qu'il cherchait un service civique. Et je me suis renseignée du coup sur l'association, sur quoi consistait le service civique, quelles seraient les missions. Et ça m'a donné envie de me lancer dedans. Voilà, j'ai aimé le projet, j'ai aimé ce que j'en avais vu et j'ai envie d'en savoir plus.
Quel a été votre rôle dans l'organisation de ce colloque ?
Alors moi, je suis arrivée du coup en octobre, le programme était déjà presque finalisé. Donc j'ai géré toute la partie pratique, on va dire, de la location de la salle, coordination entre le graphiste pour les programmes, la gestion des inscriptions, tout ce qui va autour de l'aspect très pratique, quoi.
Ça demande beaucoup de temps.
Ça demande du temps, oui. Je suis en service civique, du coup, en 24 heures par semaine chez Grandir. Ça m'a pris pratiquement toutes ces 24 heures par semaine depuis octobre.
Quand on est à la tâche, on a le temps de réfléchir sur ces questions qui sont posées dans le cadre de ce colloque ?
Ben, pas forcément. C'est vrai que des fois, c'est un peu frustrant parce qu'on aperçoit des choses. J'ai eu contact, du coup, avec les intervenants, notamment pour tout ce qui est la partie pratique. J'ai été en contact avec eux, J'ai pas discuté avec eux vraiment de ce sujet-là. C'était plutôt des questions pratiques à régler. Mais c'est vrai que c'est un peu frustrant parce qu'on a des aperçus, on a des petites bribes, des débuts de réflexion, mais pas forcément le temps d'aller dans la profondeur des choses, même si... Mais après, j'ai accès aussi à pas mal de support et de matière aussi par Grandir. J'ai commencé un peu à visionner aussi les colloques des années précédentes. C'est vrai que c'est très intéressant de pouvoir avoir accès à ce contenu-là, quoi.
La question de devenir parent se pose chez vous ?
Je ne suis pas encore posée cette question-là. J'y réfléchis. De fait, en organisant ce colloque, ça me pousse un peu à y réfléchir parce que moi, j'ai 20 ans et ce n'est pas une question que je me pose, qu'on se pose beaucoup à mon âge, en tout cas pas moi. Et ça permet de s'y intéresser, de commencer à amorcer une réflexion, même si moi, je n'en suis pas... J'en suis pas à savoir si je veux des enfants ou pas, peut-être, je sais pas encore, on verra. C'est une question qui vient pas parce que je suis pas en couple non plus, donc pour moi je pense que c'est pas le moment pour l'instant. Au-delà des questions financières ou des questions de matériel, de pouvoir le faire, je pense qu'avant de se dire est-ce que je peux le faire, c'est est-ce que j'en ai envie. Et pour l'instant je suis pas en couple et je pense qu'il y a des étapes aussi, en tout cas dans ma perception des choses, avant de se poser réellement la question de est-ce que je veux et après est-ce que je peux. Donc j'en suis pas encore là, même si du coup ce colloque et de travailler sur ce thème-là, ça fait réfléchir sur le désir ou comme le disait Martine Duboc, le non-désir d'enfant. Avant le colloque, j'avoue que c'était des questions que je ne me suis pas posées. parce que c'est pas des questions qui sont abordées comme ça. Enfin, c'est déjà, enfin, j'ai dans mon entourage et dans familial ou amical, j'ai pas particulièrement, enfin, je connais pas de personnes qui sont en situation de handicap ou de, j'ai pas de raison, enfin voilà, de connaissances qui auraient pu faire que j'aurais, que je me serais posé cette question. Et c'est dommage d'ailleurs de se dire j'ai besoin d'avoir un entourage concerné pour me poser la question, parce que en soi, c'est une question de société et qui concerne malgré tout tout le monde, et que tout le monde peut, voilà, avoir un avis là-dessus, et se, rien que se questionner, c'est important. Mais non, je m'étais jamais posé la question, parce que je pense que voilà, comme beaucoup de gens le pensent, et à tort, on a tendance à penser que les personnes en situation de handicap ne peuvent pas, ou enfin, avoir d'enfants, et on se le dit à tort parce qu'on se pose pas les bonnes questions, je pense, et puis on prend pas le temps aussi d'y réfléchir et d'en parler aussi avec les personnes concernées, je pense.
Quelles sont vos bonnes questions ?
Les bonnes questions, je sais pas s'il y a une bonne réponse à ça. Je pense que il y a pas vraiment de bonnes questions, c'est voilà, c'est juste s'autoriser à se poser les questions, peut-être aussi avant de porter des jugements trop hâtifs, ou de se dire enfin, c'est comme ça, il y a pas matière à réfléchir, ou c'est juste peut-être juste se poser les questions plutôt que se poser les bonnes questions, ce serait plutôt rien que se les poser tout court.
Par exemple,
sur le thème du colloque, ben, je sais pas, c'est se questionner sur la question de la parentalité en général, mais aussi sur les personnes en situation de handicap, et pas se dire d'emblée que ces personnes sont, enfin, ne peuvent pas être parents. Si elles le peuvent, mais c'est ça, je pense, la question à se poser, c'est comment elles peuvent être accompagnées et comment, enfin, pouvoir leur poser la question sans étouffer ce désir.
La parole du clown Paolo Dos.
Ce que j'apporte dans ce colloque, c'est une image un petit peu décalée. C'est une parole un petit peu décalée qui est tout à fait en rapport avec ce qui s'est dit le matin, qui est tout à fait dans le vif du sujet. Et, je ne vais pas dire mais parce que ce n'est pas antinomique, et qui apporte un regard, je veux dire, plus ludique, plus léger, mais tout en restant prise directe avec la réalité.
Qu'est-ce que ça apporte de plus, l'humour ?
Alors voilà, l'humour apporte, je veux dire, quelque chose, une composante qui fait que ce qu'on entend ou ce qu'on a entendu le matin devient plus acceptable. On parle évidemment de choses difficiles, de choses parfois lourdes ici, comme lorsque la dernière personne a fait son témoignage, juste avant d'ailleurs que je monte sur scène. Et donc, eh bien, en parlant avec humour, ben, cela permet de le prendre avec plus de légèreté et voilà, de ne jamais oublier que ben, derrière tout ça, il y a un désir de vie, un désir d'amour, il y a un désir d'être qui l'on est vraiment.
Vous intervenez souvent dans ce type de colloque ?
J'interviens souvent dans les congrès, dans les colloques, dans les journées d'études, avec mon personnage de clown, puisque je suis, voilà, je suis un clown, je ne suis pas un humoriste, je suis un clown. J'interviens partout où l'homme est en souffrance, où l'homme est en questionnement, où il est en recherche de sens, où il y a quelque chose qui le turlipine, qui dit « mais pourquoi ça se passe comme ça ? Je voudrais que cela se passe autrement ». Eh bien, dans ce cas, surtout lorsque les choses sont très très difficiles à digérer, donc que ça peut être aussi bien dans le monde du handicap, que dans l'enseignement, que dans les soins palliatifs, que dans le deuil, etc. Donc ce sont des choses très très lourdes. Et bien à ce moment-là, ben, vous avez le choix entre amener trois personnes, soit le curé, soit le psychologue, soit le clown. Voilà. Ce sont trois personnes, en tout cas, qui sont censées donner de l'espoir, si pas des explications, en tout cas de l'espoir.
Qu'est-ce que pourrait me dire le clown pour me résumer la matinée ?
Ah, ben à la manière du clown, ça va être difficile simplement parce que je dois être dans mon personnage et sur scène. En fait, ce qui est très intéressant pour moi, c'est qu'effectivement, le clown fait la part belle au handicap, ou le handicap fait la part belle au clown. Et ben, en fait, le clown, il vient avec simplement qui il est, et il vient avec son handicapé mental. Voilà, je suis venu avec mon handicapé mental. Derrière ça, il y a beaucoup de similitudes entre le clown et la personne handicapée, parce que le clown est un handicapé de la société, comme la société aussi met sur le côté les personnes qu'il dit handicapées. Et ici, ce qui est bien, c'est que ce matin, on se posait la question, mais finalement, qui est plus handicapé que l'autre ?
Et ça valait la joie.
Et ça en valait la joie, effectivement. Prenez bien soin de vous.
Pourquoi la parole du sociologue Saül Kertész est-elle si intéressante, Nathalie Martineau.
Saul Katz, il est intéressant parce qu'il est dérangeant et il nous met dans l'inconfort. Donc, ouais, c'est intéressant en tant que professionnel de s'entendre dire que oui, il faut douter, il faut douter de. On a appris un travail, on a appris à être éducateur auprès des personnes, mais il faut jamais être trop sûr de soi, effectivement, et douter de ce qu'on apporte et d'écouter les personnes, c'est le plus important d'abord avant de savoir ce qu'il faut faire ou dire. Et pour moi, le plus important dans ce travail, c'est vraiment d'être à l'écoute des personnes qu'on accompagne. Et puis de voir comment ils évoluent, et puis de les aider quand il y en a besoin, d'être là, pas trop loin non plus, enfin voilà.
Quel discours tenir aux familles ?
C'est compliqué, c'est vraiment des questions éthiques desquelles on parle. Il y a Philippe David qui a parlé de ça ce matin. C'est très compliqué, la décision elle est prise, l'opération a eu lieu, il y a consentement. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Effectivement, on continue, on n'a pas le choix. Peut-être une autre famille aurait fait des choix différents. Cette famille-là, elle a fait ce choix-là avec leur fille qui a plus ou moins, entre guillemets... Enfin, c'est compliqué de savoir, effectivement, le consentement, mais on continue. On continue, en tout cas, certainement qu'on ne fait pas de loi pour interdire à certaines femmes de pouvoir procréer ou pas. Et ça doit rester, justement, des réflexions au cas par cas pour chaque personne, certainement. Mais effectivement, on a des témoignages. Enfin, il y a eu un témoignage en fin de matinée très éprouvant d'une mère qui dit moi, ma fille, elle a eu. Fallait pas qu'elle fasse d'enfant. Finalement, elle en a fait un et on lui a retiré 15 jours après. Et ça déchire le cœur à tout le monde. Alors, il faut qu'on invente des solutions. Nous, il y a sur la Loire-Atlantique, il y a des services qui sont des services d'accompagnement à la parentalité, mais c'est pas magique. Et ces services-là se retrouvent aussi confrontés à des fois un manque de moyens, un manque de perspectives, de choses à proposer. Et quand la seule proposition qu'il y a, c'est le placement par un juge dans une famille ou dans un foyer ou dans une pouponnière. Peut-être qu'on pourrait trouver des solutions intermédiaires entre les deux, des choses moins radicales.
Là, on implique les parents. Ils se sentent eux responsables.
Non, mais en fait, je suis pas persuadée que ce soit les personnes qui sont en situation de handicap qui impliquent leurs parents,
plutôt
ou si
les
parents qui se sentent très très impliqués dans leur rôle auprès de leurs enfants devenus adultes.
Donc ce sont les parents.
Les parents sont très impliqués dans le devenir de leurs enfants. D'une part parce qu'il y a certainement de la culpabilité d'avoir mis au monde un enfant en situation de handicap et que du coup on se sent beaucoup plus responsable de ce qui va lui arriver. Et ça se traduit par toutes les périodes de l'enfance à l'adolescence et à l'âge adulte, comme il y a peut-être peu de propositions pour ces jeunes hommes et ces jeunes femmes, les parents continuent à s'investir énormément auprès de leurs enfants devenus adultes. Et finalement, parfois, ça va être le discours de l'éducatrice qui peut penser que de temps en temps, ça peut être un peu étouffant pour la personne qui est devenue adulte et qui devrait pouvoir faire ses choix. Et alors là, c'est toujours pareil, c'est compliqué, quel choix et qu'est-ce qu'on laisse comme possibilité aux personnes de pouvoir exprimer ce qu'ils ont envie. Et du coup, effectivement... Faire un enfant, ça renvoie à leurs compétences, à leurs capacités. Et comme on n'en est pas vraiment sûr de ce qu'ils vont pouvoir faire, on préfère plutôt aller vers ne pas faire d'enfant. Il n'y a pas de loi qui interdit aux personnes en situation de handicap d'avoir des enfants. Donc à partir de là, quels moyens on met en œuvre pour qu'ils puissent faire des enfants, mais pas simplement les faire, pouvoir les élever, les éduquer aller vers des apprentissages, il faudrait plus de moyens, plus de services d'accompagnement à la parentalité, plus de coparentalité aussi, de l'accueil séquentiel pour des familles qui peut-être en semaine, enfin des parents qui en semaine n'auraient pas la capacité de s'occuper de leurs enfants parce que être en situation de handicap, ça demande beaucoup de temps pour s'occuper de soi. Déjà.
Reportage réalisé à l'occasion de la tenue à Nantes du colloque national intitulé « Du désir d'enfant au devenir parent, quel cheminement quand on a un handicap » organisé par l'association « Grandir d'un monde à l'autre ».
« Donc après, avoir le temps de s'occuper d'un enfant, ça peut être plus compliqué. Donc on pourrait penser à des solutions un peu alternatives avec des familles d'accueil qui accueillent l'enfant la semaine et les parents, et même peut-être aussi accueillir aussi les parents pour pouvoir aider, accompagner. Mais, et puis peut-être aussi de temps en temps les laisser un peu vivre leurs expériences et les laisser faire aussi pour voir un peu comment ils peuvent se débrouiller. Parce qu'il y a toujours cette idée qu'effectivement il faut de l'accompagnement, il faut mettre du service social derrière. Bon.
Et puis comme vous aimez bien renverser les choses, je vais les renverser aussi. C'est-à-dire que les enfants peuvent devenir les parents de leurs parents.
Peut devenir leurs parents. On dit ça des enfants qui deviennent parentifiés quand ils n'ont eu plus une place d'enfant et que les parents sont défaillants. Parfois, les enfants prennent cette place-là. Alors, c'est ça que parfois les personnes rencontrent. On a vu hier dans le témoignage, effectivement, que... Les personnes qui sont en situation de handicap ne font pas forcément des enfants en situation de handicap. Donc effectivement, un enfant qui va arriver autour de 9-10 ans peut comprendre les difficultés dans lesquelles est son parent et pouvoir un petit peu s'en servir pour obtenir ce qu'il a envie d'obtenir. Donc effectivement, là, il y a pas mal d'étayage à proposer pour que ça ne soit pas trop compliqué. Parce que effectivement, dans le film, c'était ça. Le père se sentait un peu démuni face à son fils qui demandait peut-être trop de choses ou des choses impossibles.
Quand il a 25 ans, 30 ans.
Alors, moi, j'ai pas d'exemple à vous donner, mais certainement que ce serait intéressant d'entendre des enfants de parents en situation de handicap qui ont grandi, qui sont devenus adultes. On en a cherché, on n'en a pas trouvé qui voulait témoigner. Donc, ça reste un travail à venir pour Olivier Rabalan, ça serait intéressant.
Dans votre travail quotidien, cette question-là, elle se pose comment ?
Moi, je travaille dans un foyer. Je suis pas directement...
Vous êtes chaperonne.
Je suis chaperonne. Oui. Non, je suis pas aux prises directement avec des personnes qui ont des enfants. Mais je suis en contact avec des personnes qui peuvent exprimer parfois le regret de ne pas avoir fait d'enfants. Et du coup, l'idée de travailler sur ces questions-là, c'est l'idée de ne pas fermer la porte tout de suite. De ne pas dire, t'en as pas eu, puis voilà. Mais c'est de laisser un petit peu parler la personne sur ses regrets, sur ce qu'elle aurait eu envie, qu'elle n'a pas eu. Parce que voilà, ça veut dire que quand ça revient sur le devant de la scène, ça veut dire que c'est toujours un peu là. Et qu'il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir l'exprimer, en tout cas. Bon. Parce que bien souvent, il y a une sorte de résignation à se dire « mais de toute façon, j'aurais pas pu en avoir parce que j'ai des problèmes ». Donc ça, c'est parfois bien intégré. Alors est-ce que c'est la société qui renvoie cette image aux personnes qui sont en situation de handicap que de toute façon, c'est trop compliqué pour eux de faire des enfants ? Est-ce que nous, en tant que professionnels, on renvoie pas ça aussi un peu pour se faciliter la tâche ou pour éviter les problèmes ? Les problèmes à venir qui pourraient se poser. Il n'y a pas forcément les dispositifs, les moyens mis en place. Donc on se dit, ça va être le parcours du combattant pour ces personnes. Mais en même temps, on peut toujours dire ce qu'on veut. Si une personne décide de faire un enfant, elle fait un enfant. Et si elle n'a pas envie d'en parler autour d'elle, elle a le droit aussi de ne pas en parler autour d'elle. Voilà. On a un service d'accompagnement à la parentalité. À un moment donné, il y a eu des gens pour dire « mais si vous ouvrez cette porte-là, c'est comme la boîte de Pandore, ils vont faire des enfants à tour de bras ». Mais ils ne nous ont pas attendus pour faire des enfants. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on ouvre des services pour aider les personnes qui le souhaitent, parce qu'il n'y a pas d'obligation à être suivi par notre service, à proposer des temps d'échange, du partenariat pour être en lien avec l'école, la PMI. C'est vrai que quand les personnes qui sont en situation de handicap, qui ont des enfants qui vont à l'école, les écoles parfois n'ont pas le temps, elles ne prennent pas le temps de parler, de discuter, d'échanger. Il y a des courriers qui arrivent aux parents, les parents ne comprennent pas les courriers, donc ça peut être compliqué. Donc nous, nos services, ils servent à ça, ils servent un peu à faire l'entre-deux, le lien, quoi. Le travail social, c'est vraiment le travail du lien entre les personnes. Donc je sais qu'il peut y toujours y avoir des images très négatives du travailleur social qui va enlever les enfants des familles, qui va envoyer des rapports aux juges, qui va... Bien sûr, ça existe aussi, mais le fond du travail social, c'est pas du tout ça. C'est plutôt d'accompagner les personnes et de favoriser le mieux le lien entre les personnes, leurs enfants, leurs adolescents en difficulté, les femmes seules avec enfants. Enfin voilà, ça, on se confronte à tout un tas de choses. Et voilà.
Est-ce que cette question de désir d'enfant, est-ce qu'elle se pose moins dans les foyers que lorsque les personnes sont plus autonomes ?
Ça se pose de la même manière. Après, effectivement, il ne faut pas se leurrer. Nous, des personnes qui arrivent à 20, 22, 23 ans, qui n'ont pas forcément de contraception, je parle des femmes, les questions qui vont se poser, s'il y a une histoire de petite amie dans les parages, la question qui va se poser, c'est est-ce qu'elle a une contraception ? Est-ce que... Et souvent, on met en place la contraception par la pilule. Et souvent, on met en place la contraception par la pilule, mais là encore, il faut être régulière et prendre ça à heure fixe, et c'est pas très évident pour tout le monde, donc c'est souvent un implant, des choses comme ça. Effectivement, c'est... Est-ce qu'on résout la question comme ça et du coup, on met un peu du voile et on n'en parle pas ? Nous, on est confrontés, enfin, on commence à parler de tout ça, et ce genre de colloque nous permet aussi, pas de nous positionner, mais de prendre conscience que... qu'on a aussi ça à accompagner, en fait. Mais on n'est pas forcément, nous aussi, très à l'aise avec cette question-là. Donc c'est peut-être pour ça que ça met un peu de temps à émerger, quoi. Je dis, il y a 40 ans, on a obtenu la libération sexuelle. Les personnes en situation de handicap ont aussi obtenu la libération sexuelle. Ils ont eu le droit à avoir une sexualité alors que c'était pas forcément reconnu. Bah, l'étape d'après, c'est de pouvoir avoir aussi le droit de procréer. Mais effectivement, nous, ça nous renvoie aussi, nous, à notre intimité. On peut être pudique par rapport à tout ça. Ouvrir une porte sur ce sujet-là. Certains professionnels, travailleurs sociaux, sont pas forcément à l'aise avec cette question-là. Alors, est-ce qu'il faut y aller quand même ? Est-ce que du coup, il ne faut pas aller chercher des aides ailleurs aussi, hein ? On n'est pas tout seul, donc on peut faire du travail de partenariat. Nous, dans notre association, il y a un service ressource qu'on a du mal à faire vivre, mais qui peut être aussi là pour répondre à des questions, des questionnements, des personnes en situation de handicap, des professionnels, des familles. Organiser des groupes de parole, de témoignages. Je trouve que c'est très aidant de voir les gens, d'entendre ce qu'ils ont vécu et le parcours qu'ils ont suivi et de dire les manques. Ce matin, on parlait de ce qui... Bah oui, on parle souvent des manques, mais parce que ça sert à ça aussi. Un colloque comme aujourd'hui, ça sert à faire émerger des paroles qui peuvent être un peu crues, un peu violentes, mais voilà, c'est les paroles, c'est le résultat des actes qui ont eu lieu, qui ont été posés à certains moments et qui peuvent être heurtants, violents et... L'idée, c'est de pas laisser les familles toutes seules avec ça.
On a, pour une part des personnes, un raisonnement qui est lié à sa condition. On fait des études, on n'est pas encore économiquement stabilisé. Ça doit être compliqué quand on est en face de personnes qui ne peuvent pas raisonner de la même manière.
Mais oui, en fait, c'est ce que disait Saul Katz ce matin. Et puis, à quel moment on se dit qu'on a un désir d'enfant ? Il y avait aussi Martine Dubock qui disait que tout ça, c'est dans l'inconscient, en fait. Donc, effectivement... Est-ce que si nous, on a la capacité de symboliser les choses ou de raisonner, on peut se poser ces questions-là sur notre cheminement, sur le cheminement d'une autre personne, c'est déjà plus compliqué. Il y a pas mal de personnes qu'on accompagne qui, effectivement, ont envie d'être comme tout le monde. Et être comme tout le monde, c'est faire un enfant. Il n'y a pas que les personnes en situation de handicap qui disent ça. C'est effectivement, on est tous, à quelques exceptions près, à vouloir un peu, entre guillemets, se fondre dans le moule et de faire comme tout le monde. Et de faire comme tout le monde, c'est d'être en couple, c'est d'avoir une famille. Et pourquoi les personnes en situation de handicap ne pourraient pas avoir ça aussi ? Enfin, elles ont droit à tout, sauf à ça. Enfin, c'est à un moment donné, elles sont adultes, on doit leur reconnaître les droits comme tout le monde, mais pas celui-là. Enfin, donc... Effectivement, c'est compliqué. Et puis quand on n'a pas trop la parole ou pas trop les moyens d'expression, parfois on préfère se taire. Donc à nous d'être plus attentifs, à tendre l'oreille et puis à proposer des temps de parole. Nous, on commence à travailler ça dans l'institution, des groupes de parole, des espaces de parole. On ne veut rien imposer, on ne veut pas proposer des programmes ou des choses comme ça. On veut ouvrir un espace de parole et que les personnes s'en saisissent et qu'elles viennent nous dire ce qu'elles ont envie de nous dire. On ne veut pas que ce soit nous qui leur disions comment elles doivent faire. Mais ça peut être un peu plus risqué parce que du coup, ce qu'elles nous amènent, ça peut être loin de ce qu'on avait imaginé. Donc il faut qu'on travaille avec ça.
On aurait pu imaginer que Lucie intervienne seule aujourd'hui, sans être encadrée.
Ben oui, elle aurait pu intervenir seule. Après, c'est ça qui est compliqué parce que Lucie, ce midi, elle mangeait seule avec nous et dès qu'il y a eu de la place, elle a appelé ses parents. Donc il y a une interaction. Je pense que les parents sont protecteurs, sont chaleureux et très présents, mais elle a eu l'habitude de ça. Et pour s'affranchir de ça, c'est pas évident. Et puis est-ce qu'il faut vraiment s'affranchir de ça ? Après, c'est peut-être rassurant d'avoir ses parents autour d'elle. Moi, j'accompagne des personnes qui cherchent à s'affranchir de leurs parents, qui posent des actes, qui font des choix, par exemple, d'être sous curatelle et qui font des choix de ne pas être sous curatelle familiale.
Merci à Zoé Bouvier, Paolo Dos et Nathalie Martineau pour leur libre participation à ce reportage, enregistré à l'occasion de la tenue à Nantes du colloque national intitulé « Du désir d'enfant au devenir parent, quel cheminement quand on a un handicap ?» organisé par l'association Grandir d'un monde à l'autre.
font des choix de ne pas être sous curatelle familiale. Ça peut heurter les parents, mais c'est une manière de s'affranchir, parce que un père ou une mère qui est curateur de son fils qui est adulte, c'est-à-dire que chaque désir d'achat, ça va devoir passer par l'autorisation parentale. Il peut y avoir des achats qu'un père ou une mère n'a pas à savoir. Et pour les parents, c'est difficile, parce que pour eux, ils ont toujours l'impression d'avoir l'autorité parentale. Sauf qu'à 18 ans, l'autorité parentale, l'enfant, il est devenu adulte, et il est adulte, et il n'y a plus d'autorité parentale qui tienne, même pour une personne qui est en situation de handicap. Ça frite, hein, parfois ça frite. Et nous, on essaye d'être un petit peu au milieu, d'accompagner la personne, de s'affranchir de ses parents et de devenir une personne adulte et autonome. Parce que nous, dans notre jargon d'éducateur, on parle d'autonomie à tout bout de champ, mais ça en fait bien partie. Et aussi que la personne puisse s'exprimer et s'expliquer auprès de ses parents du pourquoi elle veut faire comme ça.